Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Je trouve que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
Les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche toutes et tous, notre flore intestinale. De plus en plus connus sous le nom de microbiote, les micro-organismes qui peuplent nos intestins sont connus des scientifiques depuis un peu plus d'un siècle seulement. Pourtant, le microbiote intestinal abrite à lui seul environ 10 000 milliards de micro-organismes de près de 160 espèces différentes, pesant entre 1 et 5 kg chez l'adulte. Si on entend de plus en plus parler ces dernières années du microbiote, c'est pour le rôle qu'il joue sur notre santé. Il influencerait aussi bien notre digestion que la protection de notre organisme et en cas de dysfonctionnement serait à l'origine de l'apparition de maladies comme le diabète, l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. Or, l'alimentation joue précisément un rôle crucial dans le fonctionnement de ce microbiote. Pour comprendre le microbiote, son état aujourd'hui et son fonctionnement, je reçois un invité que vous avez déjà entendu dans un précédent épisode sur la vie des sols. Il s'agit de Marc-André Sellos, biologiste spécialisé en botanique et mycologie. Marc-André est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en plus d'être l'auteur de plusieurs ouvrages. Il s'est notamment intéressé aux microbes et à leurs contributions, omniprésente et parfois inattendue, dans un livre intitulé « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations », publié en 2017 aux éditions Actes Sud. Rebonjour Marc-André.
Rebonjour.
Peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, mais je vous invite fortement à l'écouter sur la vie des sols, vous pouvez vous représenter.
Moi je suis microbiologiste, intéressé quand j'étais enfant par les champignons, que je ramassais, auxquels j'essayais de donner des noms, je me suis rapidement trouvé à comprendre qu'en fait, ils étaient le produit d'un mycélium invisible, c'est-à-dire de petits filaments qui vivent dans le sol ou dans les plantes. Et ça a fait de moi, à l'âge adulte, un microbiologiste, c'est-à-dire qu'ils m'ont plongé dans le monde des microbes, l'ensemble des organismes, virus, bactéries, champignons, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Sauf pour les champignons au moment de leur reproduction, mais c'est tout à fait anecdotique dans leur vie. Et moi je m'intéresse beaucoup aussi aux interactions biologiques, parce que je suis tout à fait conscient, et je pense qu'à la fin de cet épisode tout le monde le sera, qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'individu, on est tous en interdépendance, et notamment nous sommes en interdépendance avec ces microbiotes que nous abritons, c'est-à-dire que du point de vue des microbes, nous sommes un immeuble à microbes. Nos cavités, alors bien sûr le tube digestif, vous le mentionniez, mais aussi les oreilles, le nez, la bouche, le vagin, les poumons, tout ça c'est peuplé de microbes. Il y a des microbiotes pas seulement dans le tube digestif, et puis il y a aussi ceux de la surface de notre organisme, le microbiote ou les microbiotes, parce que c'est diversifié selon les parties de la peau, les microbiotes de la peau. Et ça, ces microbiotes, moi quand j'ai fait mes études, on disait « c'est la microflore commensale ». En gros, on appelait ça microflore à l'époque, Et on disait commensal parce que l'idée derrière, c'était que ces organismes-là tiraient leur alimentation et leur protection, leur habitat de notre organisme. Donc c'était bénéfique pour eux. Mais pour nous, c'était neutre. Commensal, ça veut dire ça. Bénéfique pour l'un, neutre pour l'autre. Ce que moi j'ai vu en tant qu'universitaire et ce que j'ai contribué à voir aussi en tant que chercheur, ce que j'ai vu dans les 30 dernières années, c'est une révolution complète où on s'est aperçu que ces habitants construisaient leur habitat, c'est-à-dire que nous-mêmes sommes le produit de cet écosystème microbien qu'on appelle le microbiote.
Et comment vous êtes-vous rendu compte de ça ?
Alors, moi, très très tôt, je m'en suis rendu compte à propos des plantes, parce que je travaille sur l'interaction entre les plantes et les champignons du sol, dont certaines sont à bénéfice réciproque. Alors là, je crois qu'il faut vraiment aller réécouter l'autre podcast, mais plus sérieusement, je me suis aperçu, en lisant plein de papiers, qu'il y avait aussi des bactéries dans les feuilles, des bactéries à la surface des feuilles, des champignons dans la plante, même dans la fleur qui font l'odeur des fleurs. Enfin, il y avait tout un tas de microbes qui aident la plante à fonctionner, à se nourrir, à se défendre et à accomplir ses fonctions, même avoir acquérir sa forme adulte. Et en 2004, j'avais publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences un papier disant que finalement, beaucoup de fonctions de la plante étaient aidées par des microbes. Et en fait, aujourd'hui, non seulement cela a été plus largement montré sur bien plus de fonctions chez les plantes, il y a des microbiotes chez les plantes aussi, mais entre-temps, et notamment dans le domaine médical, ça a émergé pour les animaux et en particulier l'homme. Et c'est un travail, finalement un processus symétrique qui s'est opéré dans le domaine du végétal et dans le domaine animal, que de prendre conscience qu'il y avait là plus que des habitants, mais des structurants, je dirais, des opérateurs. Et finalement, on peut dire que nous sommes le produit d'un service écosystémique. Cet écosystème interne qu'on appelle le microbiote nous construit. En tout cas, on se construit aussi, hein, mais il y a une dépendance réciproque. L'un ne manipule pas l'autre, mais il y a une dépendance réciproque qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes en bonne santé sans un microbiote en bonne santé.
Ce que je comprends en tout cas, c'est qu'on ne doit pas parler du microbiote, mais des microbiotes.
Bah oui, je préfère. Parce qu'il y en a plusieurs à plusieurs endroits dans l'organisme dont on ne s'occupera pas de la même façon selon où ils sont et ce qu'ils sont.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est un microbe? Parce qu'on se représente plus ou moins ce que c'est, mais concrètement, c'est quoi un microbe?
Bah, c'est petit déjà, hein.
Ouais.
c'est à Cédillot qu'on doit ce. Qui était un médecin militaire, dans les années 1870, il va proposer ce mot de microbe. Et alors là, les microbes, ils commencent mal, hein, parce qu'ils commencent dans leur rôle pathogène. Mais ce n'est pas ça, un microbe, c'est pas une maladie. Un microbe, c'est avant tout quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. On les citait tout à l'heure, hein. Il y a les champignons qui sont faits de filaments microscopiques de l'ordre du dixième de millimètre de diamètre. Certains champignons sont faits de cellules qui se séparent les unes des autres, alors du coup ils font pas des filaments, ce sont les levures. Et d'ailleurs en matière de champignons, c'est surtout des levures qu'on va trouver dans notre organisme. Les levures, c'est des formes des champignons bien adaptées à des milieux liquides ou à des milieux où il y a des perturbations mécaniques, parce que les filaments, ça se casserait. Donc c'est bien adapté à la peau ou au tube digestif, qui est quand même entre liquide et visqueux dans son contenu. Bon. Donc déjà, il y a ces champignons et leurs variants unicellulaires que sont les levures. D'autre part, plus petit, un millième de millimètre, il y a des bactéries. Alors là, c'est extraordinairement varié. Nous vivons dans un monde où il y a probablement entre 10 et 100 millions d'espèces de bactéries. Elles font des trucs absolument incroyables qui vont de la rouille à l'utilisation de l'azote de l'atmosphère en passant par la vie dans nos intestins et sur notre peau. Parce que toutes ces espèces ont des modes de fonctionnement et des caractéristiques différentes. Bon, il y a aussi des choses dont on parlera peu, parce qu'il y en a peu dans le type digestif. Il y a des choses comme les amibes, bon. Mais il y a aussi, et ça on va pas en parler, mais c'est parce qu'on les connaît mal, on connaît à la fois mal leur diversité et leur fonction, les virus, qui sont tellement petits. Vous voyez, les bactéries étaient déjà 10 fois plus petites que les filaments de champignons, ben, les virus, ils sont 10 à 100 fois plus petits que les bactéries. Et ils sont tellement petits qu'ils ont pas l'espace et le matériau et le matériel pour se reproduire, et eux, ils ne se reproduisent qu'en empruntant les cellules des autres. C'est comme ça que souvent ils sont pathogènes, mais pas toujours.
Il y a des virus qui sont tout à fait bons pour notre santé?
Bah, dans le microbiote, il y a fort à parier que la régulation des populations des bactéries, par exemple, est largement due à des virus qui rendent malade une partie d'entre elles et qui vont finalement contribuer à façonner les fréquences respectives des différentes espèces qui nous peuplent. Mais bon, là, pour le coup, les virus, on est très en retard. En fait, notre connaissance des virus du microbiote, on est à peu près là où on était à la connaissance des bactéries du microbiote dans les années 70-80. Quelques travaux pilotes qui laissaient deviner que certaines espèces ont un rôle, mais pas une vision d'ensemble du tout.
En tout cas, ce que je comprends, c'est que, en effet, quand on pense microbe, on pense souvent pathogène. Quand on pense bactérie, on pense pathogène. Quand on pense virus, on pense pathogène. Alors qu'en réalité, tout cela fait partie de la vie, quoi, et nous tient en bonne santé, probablement.
Et bien sûr, et désolé de renvoyer encore à l'autre podcast, mais si on le réécoute de cette oreille-là, on verra que, de nouveau, dans ce podcast-là, on a vu que ça existe. Et c'est ni bon ni mauvais. Ça peut faire le pire comme le meilleur. Et c'est assez amusant que l'homme s'est d'emblée demandé pourquoi il était malade, et il a trouvé des microbes. Mais maintenant qu'on regarde comment on est en bonne santé, maintenant qu'on se pose cette question, qui est une question qui paraît plus anodine, mais on trouve aussi des microbes. En fait, on les trouve partout parce qu'il y en a partout. Il y en a derrière la santé comme il y en a derrière la maladie. Et justement, les microbiotes, dans les microbiotes, il y a quelques microbes qui sont pas si bons que ça, hein, mais en moyenne, c'est quand même des choses qui sont profitables et c'est une invitation à revisiter notre vision du microbe. Moi, je continue d'utiliser le mot de microbe, que je trouve moins technique que micro-organisme. Il est plus connoté négativement, mais il n'y a pas à tordre, hein. Il faut qu'on aille au-devant de cette connotation et qu'on la réduise, qu'on la métamorphose en une connotation neutre. C'est-à-dire qu'un microbe, c'est comme un couteau. On peut faire le pire et le meilleur. On peut faire la cuisine ou tuer son voisin. D'ailleurs, les microbes nous aident à digérer. Quelque part, ils font un peu la cuisine pour nous.
Dans le sous-titre de votre livre « Jamais seul », vous indiquez que les microbes ont participé à construire les civilisations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
C'est-à-dire que autant notre évolution biologique a recruté des microbes pour une raison toute simple. C'est qu'on était habité de microbes et à un moment, certaines fonctions sont apparues en appui sur ces habitants permanents. Donc, les fonctions de digestion, par exemple, ou la synthèse de vitamines.
Sans microbiote, on n'intègre pas les vitamines.
Alors justement, si on regarde deux secondes les rôles biologiques du microbiote, hein, il y a des rôles digestifs, ils aident à digérer. Il y a des rôles de protection et des rôles de synthèse de vitamines. Les rôles de protection, c'est des rôles contre l'arrivée des indésirables, parce qu'ils font écran en étant installés à l'arrivée de pathogènes. Rôles vitaminiques, c'est que sans doute il y a quelques cellules de microbes qui explosent lors de guerres bactériennes, ou aussi sous l'effet de virus dans le tube digestif, et les vitamines qu'elles contiennent sont libérées et nous sont rendues disponibles. On le sait ça parce qu'on a aujourd'hui des souris axéniques, c'est des souris qu'on élève dans des bulles stériles, elles n'ont pas de microbiote, et on s'aperçoit qu'elles digèrent moins bien, il faut 30% d'aliments en plus pour qu'elles se nourrissent normalement, il faut leur donner des compléments vitaminiques, ce qui veut dire que quand elles ont leur microbe, elles trouvent le complément vitaminique dans leur microbiote. Et ces souris privées de microbes et qui vivent sous bulles, en plus, on peut leur faire attraper des maladies incroyables que n'attrapent pas les souris parce qu'en fait, elles sont moins bien protégées. Évidemment, c'est plus difficile de faire des manips comme ça avec l'homme et on en est réduit à extrapoler, mais on y reviendra, on a quelques raisons de penser que ça fonctionne vraiment pareil chez l'homme et on a même quelques exemples. Maintenant, de la même façon, comme on est entouré de microbes, notre évolution culturelle a mis en place des choses bien avant qu'on connaisse les microbes qui en fait reposent sur eux. Nous, on ne s'est pas aperçu que c'était ça, mais quand on a commencé à faire de la pâte à pain, quand on a commencé à faire du vin, quand on a commencé à fermenter certaines viandes, c'était une pratique qui permettait de les conserver. D'abord parce qu'il y a un effet écran des microbes qui s'installent. Deuxièmement, souvent, ça les rendait un peu plus digestes. Je pense notamment ici, vous voyez, à quelque chose comme le faisandage. Le faisandage, c'est quand on a une viande très raide, on la laisse un tout petit peu pourrir et la destruction des protéines musculaires commençant, la viande s'attendrit. Bon, c'est une aide à la digestion, ça. Hein.
Ah oui.
Oui. Et puis.
C'est pas seulement une question de goût.
Non. alors oui, mais le goût il est secondairement acquis. Mais la viande de faisandée, c'est de la viande pourrie. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas à cause de ses goûts un peu forts. C'est plutôt des goûts acquis, ça, secondairement. Et donc, on a effectivement en plus des aliments que l'on conserve qui perdent donc leurs vitamines propres, mais qui ont les vitamines des microbes qui sont dessus. La vitamine A de votre fromage, il y a longtemps qu'elle est passée. Mais en revanche, sur la croûte du fromage, il y a des bactéries un peu oranges, les brévibactéries, qui d'ailleurs donnent un peu cette odeur de pied au fromage, parce qu'elles produisent du méthanethiol, qui est le même méthanethiol que produisent les mêmes bactéries sur nos pieds, où elles mangent les protéines de notre peau, profitant de l'humidité à l'abri d'une chaussette ou d'une chaussure. C'est les mêmes bactéries qui font qu'on a la peau des pieds un peu plus orange. Ces bactéries-là, les brévibactéries, outre produire l'odeur de pied, elles sont oranges parce qu'elles ont des carotènes, qui sont des précurseurs de vitamine A. Donc les aliments fermentés, c'est des sources de vitamines quand on a préservé des aliments, quand on a fait des réserves. Et ça, quand on n'est plus chasseur-cueilleur, on a des réserves pour l'hiver, qui perdent leurs vitamines. Donc les rôles protecteurs, les rôles digestifs et les rôles vitaminiques, on les a retrouvés dans notre évolution culturelle et il n'y a pas d'hiatus. Moi, je dis que nous avons un microbiote culturel. C'est pas un microbiote avec lequel chacun d'entre nous interagit directement, encore que on finit par avoir un morceau de fromage dans l'assiette, ou un morceau de pain ou une bouteille de vin. Mais c'est un microbiote collectif qui, par contre, vit avec, auprès de certains spécialistes. Les gens qui font du fromage, les gens qui font du vin, les gens qui font du pain. Alors eux, ils sont en contact direct avec ce microbiote. Et donc, on a un microbiote culturel aussi. Et notre évolution culturelle a suivi les mêmes chemins que l'évolution biologique. On pourrait d'ailleurs défendre, et je le défends comme d'autres, que l'évolution culturelle n'est qu'une forme de l'évolution biologique, même si elle a ses spécificités et si elle nécessite ses spécialistes, c'est encore un processus d'essais-erreurs avec des sélections de choses qui marchent, du changement perpétuel, enfin c'est de l'évolution quoi. Eh bien notre évolution culturelle ressemble souvent beaucoup à notre évolution biologique. Elle y ressemble en ce que, les microbes étant absolument partout, elle en a recruté quelques-uns pour faire des gestes positifs, alors même que notre évolution biologique avait recruté ces microbes pour des fonctions utiles.
Ça veut dire qu'on a tous un microbiote, des microbiotes différents, et que entre le microbiote d'un Français et d'un Américain, d'un Français et d'un Africain, il y a des différences importantes.
Oui, et ça vaut pour les deux microbiotes d'ailleurs. Effectivement, nous n'avons pas le même microbiote culturel. Nous n'avons par exemple pas de microbiote, nous, qui nous servent à fermenter, du moins en grande quantité. Si on met de côté les anchois fermentés, on n'a pas de microbiote beaucoup pour fermenter des poissons. Alors que les Japonais, par exemple, bah, ils fermentent des poissons dans des saumures. Bon, ça donne un résultat qui est pas très très loin du fromage en goût d'ailleurs. Bon, c'est pas mauvais en fait, du tout. Donc on a des microbiotes culturels différents, et puis surtout on a des microbiotes différents parce que, et là on en vient à qu'est-ce qui détermine le microbiote, bah, un des grands déterminants, c'est l'alimentation. Et quand on a des alimentations différentes, ben le microbiote du tube digestif au moins est différent. C'est vrai aussi pour le microbiote de la peau. Les habitudes culturelles font qu'on a des microbiotes de la peau très différents. Dans les populations qui se douchent moins ou qui se douchent pas, les microbiotes est différent. Et par parenthèse, il n'est pas forcément moins bon. Alors, il y a absence de douche et absence de douche. Hein. Il faut se doucher un minimum, mais nous, on est plutôt du genre à se doucher trop et avec des savons à la fois trop agressifs et souvent inutilement bactéricides. Quand je dis inutilement, c'est qu'en plus, ça coûte cher. Un savon bactéricide, ça coûte les produits bactéricides en plus du savon. Bon. Donc, nos pratiques culturelles influent sur notre microbiote biologique et on a des très bonnes données qui montrent que en 2 ou 3 mois, le microbiote qu'on a dans le tube digestif d'Asiatique qui vivent en Asie et avec des habitudes culturelles et une nourriture asiatique, quand ils arrivent en Amérique avec une nourriture plus riche, plus grasse, avec moins de fibres, ce microbiote, en 2-3 mois, devient un microbiote d'Américain.
Ah oui, donc, ça évolue à cette vitesse-là.
C'est normal parce que, en gros, il y a la carotte et le bâton pour le microbiote. Il y a ce qu'on lui donne pour se développer, et les aliments pour le microbiote du tube digestif, ben, c'est eux qui sont la carotte. Si on retire certaines molécules, les bactéries qui les mangent ne sont plus là. Si on en met d'autres, ou si on augmente la quantité d'autres molécules, bah ça va augmenter la quantité d'autres microbes. Et puis il y a le bâton, c'est les choses qui empêchent les microbes de se développer. C'est les types de savonnage, les types de savons, les antibiotiques qu'on prend, les additifs alimentaires. Et mine de rien, les édulcorants, les conservateurs, les émulsifiants ne sont pas bons pour certains microbes, même pour beaucoup de microbes du microbiote. Et sont responsables d'effets délétères sur le microbiote. Donc selon que vous ajoutez ou vous retranchez ces molécules de votre alimentation, vous impactez votre microbiote intestinal.
Est-ce que c'est ça qui explique que, par exemple, quand on va voyager, on va tomber plus facilement malade que, évidemment, les populations sur place, je pense à la tourista, mais à d'autres maladies?
Alors, c'est tout à fait exact. Hein. La tourista, c'est le fait que notre microbiote, tel qu'il est constitué, est un bon écran aux pathogènes qui nous entourent, mais quand on change de pathogène, par parenthèse, quand on voyage, on change aussi d'alimentation. Donc on déstabilise, on commence à changer un peu de microbiote aussi à l'intérieur. Mais entre ces changements du microbiote et le fait qu'on a de nouveaux pathogènes autour, il arrive que ceux-ci s'installent plus facilement et que l'effet d'écran ne soit pas aussi garanti. Et donc la tourista, c'est en partie une espèce de déficience de notre microbiote dans des situations nouvelles. Quelque part, les Occidentaux, et parmi eux les Américains en particulier, qui peuvent attraper des touristas en France... Hein.
Ah oui.
Faut le dire. Bah oui.
Avec le fromage,
moins on a de microbiote diversifié, plus on est sensible aux maladies. Et donc, quand on passe dans des pays où les niveaux d'hygiène sont moindres, alors attention. En fait, les niveaux de propreté. Parce que l'hygiène, c'est médical. C'est la quantité de saleté qui amène assez de microbes pour qu'on soit en bonne santé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, très souvent, bon, il y a clairement des pays où, la propreté, qui est un trait culturel, est en dessous de l'hygiène en termes de quantité de microbes. C'est-à-dire qu'il y a trop de microbes. Il y a d'autres pays comme en Europe ou en Amérique du Nord où, au contraire, on est trop propre. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de microbes. Et donc, effectivement, les populations occidentalisées, on sait aujourd'hui, en comparant leur microbiote à celui soit de fossiles, d'excréments fossiles ou de plaques dentaires d'individus, donc de nos ancêtres d'il y a 10 000 ans, soit en les comparant à des tribus, par exemple, d'Amazonie. Il y a des travaux qui impliquent les Yanomami, par exemple, qui sont une tribu non contactée par les Européens et qui vit à l'amazonienne depuis des millénaires. Quand on compare donc, disais-je, le microbiote du tube digestif des Européens à ces populations-là, qui récapitulent un état non occidentalisé, ben on a 1,5 à 2 fois moins de diversité microbienne. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de microbes, mais ils appartiennent à moins d'espèces. Vos 1 à 2 kilos que vous mentionnez tout à l'heure de microbiote, tout le monde les a. Mais simplement, chez nous, c'est moins divers. Et donc, c'est un moins bon écran. Mais je pense qu'on va le découvrir. C'est aussi un problème pour plein d'autres maladies aussi. Finalement, ce problème de ne pas être protégé quand on voyage est le moindre des ennuis que l'écroulement de la biodiversité de notre microbiote est en train de nous faire.
Ça nous amène en effet à l'état des lieux de où en est notre microbiote, quel est l'état aujourd'hui de notre microbiote. Alors déjà, pourquoi on a mis autant de temps à se rendre compte de l'importance des microbes et aujourd'hui, quel est l'état de notre microbiote?
La réponse, elle est claire, hein, les microbes, on ne les voit pas et on ne les imagine pas. C'est-à-dire qu'on ne leur imaginait pas un rôle positif, on ne risquait pas de le trouver parce qu'on ne le cherchait pas. Tout ça change dans les années 90, sous l'effet d'une part des méthodes qui permettent de détecter les microbes par l'ADN et qui vont permettre enfin d'avoir, au moins pour les champignons et les bactéries, un catalogue de qui est là. Avant, il fallait les cultiver, on n'arrivait pas à les cultiver tous, et en gros, on connaissait moins de 1% de nos microbes. Ces méthodes ne sont pas encore très efficaces pour les virus, et c'est pour ça que pour l'instant, pour les virus, on n'a même pas le catalogue très clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça commence à rentrer dans le domaine médical, et là, tout de suite, il y a de l'argent pour faire beaucoup de recherches, et puis il y a de l'intérêt du grand public, parce que bon, le microbiote du porc ou le microbiote des arbres, les gens ils s'en foutent un peu, et les agences de financement ont du mal à financer ça. Bien. Même si d'ailleurs, historiquement, c'est de ces modèles dont je vous parle qu'est venue la notion de microbiote. Bon, elle a débouché sur l'homme plus tard. Donc ça émerge à ce moment-là, mais ça émerge à un moment où effectivement notre microbiote occidental est très dégradé. Je dirais même nos microbiotes, parce que à la fois, donc...
Occidental, donc pas humaine, hein.
Ah ben non, oui, parce qu'il y a des gens qui vivent de façon un peu plus classique et qui sont plus en phase avec la façon dont nous avons été sélectionnés pour fonctionner, c'est-à-dire très entourés de microbes. Nous, on commence à être hors zone de sélection. On vit dans des conditions où nos ancêtres n'ont pas vécu et on n'y est pas forcément adapté. Et certains d'entre nous, pas tous, ça c'est une sorte d'inégalité génétique face au hasard, se retrouvent à avoir des problèmes à cause de leur microbiote. Alors, posons les choses sur la table, on a dit 1,5 à 2 fois moins d'espèces, des espèces absentes, comme les bactéries filamenteuses septées, qui semblent être des bactéries qui interfèrent pas mal avec le fonctionnement du système immunitaire, et puis aussi des espèces nouvelles, qui sont les espèces de la modernité. Donc c'est vraiment un cortège qui non seulement est moins divers, mais en plus il y a des glissements, non seulement de fréquence, mais aussi de présence-absence des espèces. Donc c'est des microbiotes différents. Voilà. Et nantis de ça, y en a comme vous et moi qui se portent bien, puis il y en a qui se portent moins bien. En fait, on réalise aujourd'hui que 3 grands types de maladies sont liés en partie au microbiote. Alors, je dis en partie parce que le déterminisme de ces maladies est complexe et on n'est pas tous égaux génétiquement. Puis il y a aussi des causes environnementales, mais aussi des causes microbiotiques. Alors, je liste ces 3 grandes catégories de maladies, qui d'ailleurs montrent au passage que c'est par la maladie qu'on est en train de découvrir les rôles du microbiote. Donc, de nouveau, c'est la maladie qui nous met sur la voie du rôle normalement utile du microbiote.
D'accord.
1. Les maladies du métabolisme. Diabète, type 1, type 2, obésité. Ça veut dire que notre microbiote, normalement, il envoie des messages. Quand ce n'est pas le bon microbiote, les messages commencent à ne plus être les mêmes, notamment les messages de satiété ou de régulation de la glycémie. 2. Les maladies du système immunitaire, soit les maladies où il surréagit, asthme, allergie, dermatite atopique sur la peau, ces rougeurs qu'ont plus de 1/3 des enfants et que dans mes cours de récréation d'enfants, moi, je n'ai pas connu. Et puis, les maladies où le système immunitaire attaque l'organisme. C'est les fameuses maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Des vraies horreurs qui sont aussi en pleine explosion. Maladies du métabolisme, maladies du système immunitaire et aussi maladies du système nerveux. Autisme, qui a été multiplié par 3 en disant aujourd'hui un petit Européen sur 150 naît avec des syndromes plus ou moins forts d'autisme.
1 sur 150 ?
Oui, et alors, on dit que souvent que c'est lié à une meilleure détection, mais on pense que ça n'explique que 25% de l'augmentation. C'est vraiment une épidémie, ça. Parkinson, Alzheimer, alors ok, c'est les vieux, mais c'est pas rassurant. En fait, dans toutes ces maladies que j'ai citées, 1, le microbiote n'est pas le même. Les fréquences sont différentes et surtout, très souvent, il est moins diversifié. 2. Quand on donne les microbiotes de gens malades à des souris qui n'ont pas de microbiote, je pense ici au microbe du tube digestif, encore qu'il n'y a pas que lui qui est actif, dans le cas de l'asthme, il y a aussi le microbiote des poumons qui joue. Mais quand on donne le microbiote du tube digestif à des souris qui n'ont pas de microbiote, Normalement, quand on fait ça avec quelqu'un qui est sain, la souris change de comportement et de fonctionnement un petit peu, mais il se passe rien de particulier. Là, quand on donne le microbiote d'un patient atteint des syndromes que j'ai mentionnés, eh bien là, vous avez des souris qui développent quelque chose qui ressemble à ces syndromes. Par exemple, de l'obésité, si elle reçoit un microbiote de quelqu'un qui a un problème de poids. Donc, mon première observation, c'est que le microbiote est pas pareil et moins diversifié. Ma deuxième, c'est que quand on le donne à des souris, ben, les souris commencent à dysfonctionner. Ma troisième observation, et dans toutes les maladies que j'ai citées, il y a au moins un test. Alors, clinique, attention, ça se fait pas à la maison, ça, hein. Parce qu'il y a déjà eu des morts quand on fait ça. Il faut surtout pas le faire. Parce qu'on n'est pas fait pour manger nos bactéries. Non, mais vous riez, mais il y a des gens qui commencent à faire ça à la maison et c'est pas une très bonne idée, hein. Quand on transfère les bactéries de gens sains à des gens atteints des symptômes des différentes maladies que j'ai citées, on voit une régression des symptômes. C'est ce qu'on appelle les transferts fécaux. En gros, on
lave les fameuses greffes.
Ouais, les greffes de microbiote. En fait, c'est plus des inoculations techniquement. Les greffes, c'est pour les organes. Le microbiote n'est pas un organe. C'est d'autres choses que nous, mais qui font ce que nous sommes. Donc, quand on réalise des transferts fécaux, en général, on lave le tube digestif avec un antibiotique qui ne pénètre pas dans l'organisme, puis on donne une capsule à délitement intestinal, ou encore on met un tuyau qui permet d'aller délivrer directement dans l'intestin les bactéries des gens sains. Souvent, on prend des gens de la famille, par exemple. Eh bien, on voit une régression des symptômes. Mais elle n'est pas totale, mais il y a une régression.
Incroyable.
Donc ça montre que c'est un des agents causaux. Même si c'est donc pas le seul, hein. On le dit bien. Et puis, ma quatrième observation, c'est que quand on suit les patients, bah, les symptômes reviennent. Avec une exception que je vais détailler tout à l'heure. Mais les symptômes reviennent lentement et si on suit le microbiote, on s'aperçoit qu'il redevient pathogène, en tout cas anormal, un peu avant que les symptômes ne reviennent.
Et ça, on sait pourquoi ? Parce que les habitudes alimentaires, les mauvaises habitudes alimentaires...
Je vais y revenir, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un bon diagnostic parce que souvent, les microbiotes évoluent avant l'arrivée des symptômes. Alors, maintenant, pourquoi ? Bah, c'est qu'il y a d'autres causes, environnementales et génétiques. Et donc, ces causes-là sont sans doute plus en amont. Mais le dernier maillon, c'est le microbiote. Dans une causalité complexe et où les causes entrent, dialoguent ensemble, il y a le microbiote. Et le microbiote est donc, je le disais, un élément de diagnostic, mais aussi une perspective d'élément curatif. Et peut-être plus d'ailleurs en cherchant à redonner les bonnes bactéries qu'en cherchant à redonner le microbiote d'individus en bonne santé. Par exemple, typiquement, par rapport au dysfonctionnement du microbiote digestif qui sont liés à l'obésité, on a une bonne bactérie candidate, Akkermansia, qui d'une part est plus abondante chez les individus minces et d'autre part a la caractéristique, quand elle est présente chez les individus obèses, donc souvent en quantité moindre, de signaler d'être liée aux individus qui réagissent le mieux au régime amaigrissant. Donc on est en train aujourd'hui de faire beaucoup de recherches là-dessus, c'est pas encore routinier, mais l'idée c'est plutôt soit de rajouter ces bactéries, soit même de rajouter les signaux ou les produits qu'elles produisent et qui nous régulent. Ça c'est encore plus complexe, mais l'idée c'est que on en est aujourd'hui avec le microbiote quand on fait des transferts en bloc à démontrer des choses, mais pas vraiment à l'application. Et les transferts de microbiote seront aux méthodes de demain ce que donner des plantes pour se soigner est à donner la molécule purifiée de la plante qui a un effet thérapeutique. Donc on est juste en train de commencer. Après, j'aimerais mentionner une chose quand même, c'est qu'il y a des travaux qui montrent des effets plus durables. Notamment, quand le microbiote est impliqué dans un problème de développement des jeunes individus, le fait de l'avoir redressé, même si c'est que pour un temps, bah ça remet sur une voie de développement normale pour quelque temps. Enfin, normal, habituel. Et donc, sur de jeunes autistes qui ont reçu pendant 8 jours des transferts fécaux, on s'est aperçu que les améliorations de leurs symptômes d'autisme, incomplètes, hein, mais elles persistaient jusqu'à la semaine 18. Donc les scientifiques sont revenus les étudier 2 ans après, sont aperçus que effectivement l'amélioration des symptômes d'autisme avait duré 2 ans au moins. Puis on saura peut-être bientôt que ça a duré plus longtemps encore, mais l'idée c'est que là on n'est pas sur un microbiote qui aide à fonctionner, mais un microbiote qui aide à se développer. Et si on le redresse, bah, le développement reprend un chemin habituel pour quelque temps. Et ça, c'est engrangé pour toujours. Donc vous voyez qu'il y a des espoirs thérapeutiques énormes, mais qu'on en est à l'aube de leur application routinière. Mais très clairement, aujourd'hui, notre microbiote, c'est l'endroit où la perte de biodiversité nous abîme le plus. Et alors, je laisse les auditeurs penser, parce que ça paraît inattendu, tant que ça marche bien, on s'en rend pas compte hein, que c'est là un microbiote. Je leur laisse à penser ce qui les attend de la perte de biodiversité dans les écosystèmes qui les entourent. Il va aussi y avoir des catastrophes. Mais c'est pour l'instant là où la catastrophe, en termes de santé humaine, est la plus grande quant à la perte de biodiversité.
Et quand vous me parlez de ces maladies, la difficulté, en effet, c'est de savoir quelle part joue le microbiote, quelle part joue l'environnement, comme vous disiez, et quelle part jouent les autres causes.
Mais bien sûr, et on pourrait philosopher beaucoup là-dessus, mais en plus, c'est pas indépendant. Notre environnement, par exemple, c'est notre alimentation. Et donc...
Et c'est l'hygiène aussi, c'est tout.
Bah oui, mais oui, c'est l'hygiène aussi. Donc, finalement, on peut influencer sur notre microbiote, d'une certaine façon, en influençant notre environnement.
Mm.
Par nos habitudes. Par exemple, un environnement un peu plus contaminé. On sait très bien qu'on a 10% de diversité en plus chez les individus qui vivent dans une famille où il y a un chien. Et c'est pas qu'on attrape des bactéries du chien, hein, mais dans le tube digestif ou sur la peau, on se retrouve avec plus de bactéries humaines parce que le chien transvaste plus de microbes, et nous, on recrute plus facilement des microbes pour nos microbiotes. On peut parler de l'alimentation maintenant. Il y a quand même des grandes recommandations à faire. La première, c'est d'éviter ce que j'appelle... Bon, je parlais de carottes et de bâtons, hein, c'est d'éviter les bâtons. Les bâtons, c'est les émulsifiants, qui notamment affectent la quantité d'acquermantia. Et quand l'acquermantia n'est pas là et qu'il y a beaucoup d'émulsifiants, en plus, la barrière de mucus qui sépare les bactéries du microbiote des cellules intestinales, ben cette barrière est altérée, les acquermantias disparaissent et cette barrière de mucus est sans doute en fait un peu solubilisée par les émulsifiants. Et là, on voit des bactéries, notamment des bactéries qui sont pas bonnes, pas trop bonnes pour la santé, qui ont plutôt des rôles inflammatoires. On voit ces bactéries se rapprocher de nos cellules intestinales, ce qui est vraiment pas bon et qui est pro-inflammatoire et qui ensuite peut dériver vers des maladies auto-immunes ou vers des cancers.
Mmh.
Donc ça, c'est le côté des choses qu'il faut éviter.
Donc les émulsifiants, on va les trouver dans les produits ultra transformés.
Mais voilà, c'est ça. Et c'est pareil pour les conservateurs. C'est pareil pour les édulcorants. C'est la fameuse règle que proposait Anthony Fardet. Cette idée des 3 V, vrai, végétal et varié, c'est l'idée qu'il faut manger le moins transformé possible autant qu'on puisse, parce que nécessairement, quand c'est transformé, bah, y a souvent des émulsifiants, des édulcorants, mais il y a nécessairement aussi des conservateurs, et dont le boulot est quand même de ne pas être sympa pour les microbes.
Ouais.
C'est la base. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut manger végétal. Bah, ça, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui nourrit les microbes de notre tube digestif? Bah, c'est les fameuses fibres. Vous savez, on dit souvent qu'il faut manger des fibres parce que ça améliore le transit digestif. Oui, mais c'est un des effets marginaux. C'est pas l'effet majeur. L'effet majeur, c'est que ces fibres, qu'on appelle donc des prébiotiques, hein, puisqu'elles ont en fait un rôle nutritif. Elles encouragent le microbiote. Elles l'aident en fait à fonctionner parce qu'elles le nourrissent spécifiquement. Les fibres, c'est des molécules, souvent des polysaccharides, que nous ne digérons pas. Mais par contre, nos microbes les digèrent. Et donc, en mangeant beaucoup de fibres, on entretient son microbiote. Aujourd'hui, les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres recommandée par l'OMS. Donc ça veut dire qu'on n'entretient pas assez, là c'est la carotte, notre microbiote. Alors vous allez me dire, quelle fibre? Je sais pas moi. Je sais pas si je voulais vous recommander du brocoli, de la carotte, de la salade. Mangez de tout. Mangez varié. Là, on voit que la biodiversité de l'alimentation va aider la biodiversité du tube digestif. Dans varié, il faut aussi comprendre, du point de vue du microbiote en tout cas, les aliments fermentés. Parce qu'ils ont un rôle. Alors, si on réfléchit bien, on a en fait là, déjà, plus ou moins en tête deux rôles. Le rôle probiotique. Avoir une alimentation pas trop propre, avec quelques trucs crus, ou un environnement pas trop propre, on a plus de microbes qui rentrent. C'est l'effet inoculant, c'est l'effet probiotique. Le deuxième effet, c'est l'entretien de ces microbes, qui va permettre leur installation, en leur donnant de la nourriture. Des choses qu'on ne digère pas nous, mais qui digèrent eux, les prébiotiques. Et vous avez vu qu'on peut aller en pharmacie, enfin, en parapharmacie pour les acheter, mais là je suis en train de vous raconter comment les avoir gratos. Et c'est un gratuit qui en plus évite les problèmes de santé, donc... C'est un gratuit qui paye, en fait, à terme. Et puis, il y a un dernier effet. J'appelle, pour faire beau avec un P aussi, l'effet parabiotique. Il a été très très tôt montré avec le yaourt, mais de plus en plus, il est montré avec tous les aliments fermentés. Choucroute, saucisson, aliments lacto-fermentés, comme des légumes
lacto-fermentés. Le fromage.
Ou du fromage.
Le vin.
Bah, le vin, il est filtré. Alors, le vin, moi, j'aime bien le vin, mais je dirais que c'est pas vraiment... C'est comme le pain. Là, les microbes sont plus là. Dans le pain, ils sont cuits.
Ouais.
Et dans le vin, ils sont filtrés. Donc,
okay.
Mais vous pouvez manger du pain et du vin, c'est pas le problème, c'est très simple. Quant au pain, et pour le vin, c'est plutôt agréable. Mais non, il faut que mes microbes soient encore là. Alors on pourrait se dire, c'est un effet probiotique. Mais vous savez, il faut pas être naïf. Les microbes, ils poussent pas, quand vous changez le milieu, ils poussent pas de la même façon. Vous passez d'un chou en train de fermenter ou d'un fromage dans une cave au tube digestif, c'est pas les mêmes qui peuvent s'installer. Donc, il peut y avoir quelques effets inoculants. C'est démontré, par exemple, pour Bacillus mongoliensis, hein, qui est une bactérie qu'on trouve dans le parmesan. Et si on boit du lait de bufflone régulièrement, ça peut entretenir la présence de Bacillus mongoliensis dans le tube digestif. Donc, sous certaines réserves, on peut s'inoculer certaines molécules de notre alimentation. Mais l'effet majeur des aliments fermentés, c'est que les bactéries passent, ne trépassent pas, et sortent du tube digestif. On les retrouve dans les fesses. Et au passage, elles perturbent le microbiote d'une façon favorable. Les aliments fermentés, ils vont modifier le microbiote d'une façon qui va réduire le nombre de bactéries qui peuvent avoir des rôles pro-inflammatoires, celles dont je disais tout à l'heure qu'elles s'aventuraient dans le mucus du tube digestif si on mange trop d'émulsifiants, et qui, donc elles se rapprochent des cellules, ces bactéries-là qui sont productrices de H2S ou de produits fermentaires qui sont pas très bons pour le système immunitaire et qui sont pro-inflammatoires, ces bactéries-là sont défavorisées, tandis que des bactéries consommatrices de mucus et de fibres qui produisent du butyrate, qui est un grand régulateur du système immunitaire, notamment dans le tube digestif et au-delà, ces bactéries-là sont favorisées. Donc vous voyez, ça, cet effet parabiotique, c'est le passage de microbes exogènes perturbe le microbiote, mais d'une façon vertueuse, et l'aide à mieux fonctionner.
Mais ce qui veut dire aussi que si on abîme son microbiote parce que, enfant, on a mangé des choses qui n'étaient pas bonnes pour notre microbiote, on peut le rendre en bonne santé.
Oui,
en changeant son alimentation.
Ça va abîmer certaines parties de votre développement, développement du système immunitaire ou développement du système nerveux. Bon, marginalement. Donc éventuellement, ça aura abîmé des choses. Mais sur la partie fonctionnement adulte, vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Une fois de plus, il y a à la fois ce rôle dans le développement, et ça, il vaut mieux que les enfants soient en présence d'un microbiote varié, et aussi ce qui se passe aussi dans le fonctionnement ordinaire. Alors en revenant aux enfants, là, il y a des histoires absolument incroyables, parce que effectivement, les enfants, ils partent sans rien. Il y a un gros débat là-dessus, parce qu'il semblerait qu'il y ait peut-être quelques bactéries, mais c'est très difficile à identifier d'un bruit de fond de contamination des échantillons.
Ah, vous voulez dire que
en gros, les enfants, ils n'ont pas de microbiote quand ils naissent.
Pendant la grossesse, on ne transférerait pas son microbiote à son bébé?
Ah non, il y a la barrière placentaire qui n'est pas franchissable. Les cellules, en fait, ont fusionné. Donc, c'est une barrière complète. Il n'y a que des petites molécules qui peuvent passer. Enfin, il y a un débat. Il y aurait peut-être quelques bactéries qui passeraient. Mais ça renvoie à un autre débat. Est-ce qu'on a des bactéries dans nos tissus, dans le sang, quand on est en bonne santé? Et là encore, le débat, il est un peu intranché à mes yeux, parce qu'il y en a de toute façon très peu. Et on finit par détecter des choses dans les échantillons, mais on est de l'ordre de grandeur du bruit de fond, de contamination des échantillons. Ah oui. Donc, on ne sait pas si c'est de la contamination ou une faible colonisation. Il semblerait qu'on trouve perpétuellement certaines choses et qu'il y aurait peut-être certaines bactéries qui seraient des habitants des tissus sains et d'autres candidates à coloniser notre fœtus. Mais regardons les choses en face, c'est rien. Quand il naît, l'enfant, il est quasiment vierge. C'est comme ça qu'on obtient les souris exéniques, les fameuses souris qui vivent sous bulle. Elles sont nées par césarienne, on les a bien nettoyées, hop, on les met sous bulle, elles n'ont pas de bactéries. Ou très, 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 très peu. Donc, comment attrape-t-on son microbiote? C'est une longue histoire, ça prend 3 ans d'avoir un microbiote adulte pour le tube digestif. Et sans doute autant pour les autres, même si c'est pas trop, trop étudié. Alors, première inoculation, le vagin. Dans le vagin, il y a un microbiote assez diversifié, acidifiant, qui fermente les sécrétions vaginales et qui a un rôle protecteur en abaissant le pH, en acidifiant le vagin, ce qui a un rôle antibiotique. Les états hormonaux autour de l'accouchement modifient d'ailleurs légèrement ce microbiote. Et aujourd'hui, il y a une discussion pour savoir si cette modification n'est pas en lien avec des évolutions de ce microbiote qui seraient favorables à l'enfant. Bref, les lactobacilles et quelques autres bactéries du microbiote sont la première inoculation de l'enfant. Il y a aussi quelques contaminations fécales lors de l'accouchement. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a les contacts avec l'environnement, les contacts avec les parents. Et quand on est par césarienne, en revanche, on n'a que ces contacts ultérieurs. Donc très longtemps, jusqu'à 10-15 ans, ça va en déclinant, mais le microbiote du tube digestif va porter une marque de la naissance par césarienne.
10-15 ans?
Oui, bah y a des... Enfin, les marques s'effacent.
Poser problème potentiellement.
Alors, le lien exact n'est pas connu. Et c'est probablement une des causes, mais on sait que les naissances par césarienne augmentent le risque d'un certain nombre de maladies, comme de l'allergie, comme des problèmes digestifs dans la toute jeune enfance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites pour administrer des frottis vaginaux de la maman à l'enfant s'il est né par césarienne. Le problème, c'est que, comme j'ai dit qu'il y avait des modifications lors de l'accouchement par voie naturelle, ces modifications hormonales et donc les modifications du microbiote n'ont pas tout à fait lieu quand la naissance se fait par césarienne, et donc il est possible qu'on récupère pas tout et qu'on récupère qu'une partie de l'effet inoculant du vagin maternel. Bon, premier cadeau de la mère. Le deuxième cadeau, c'est le lait maternel, qui contient du lactose, des lipides, des protéines, mais le troisième composant par ordre d'abondance devant les protéines, c'est les oligosaccharides du lait maternel. Et ces oligosaccharides, qui sont propres au lait humain, même si dans d'autres espèces, il y a d'autres oligosaccharides, Ils sont très particuliers parce qu'en fait, le bébé ne les digère pas. Vous imaginez que les laits artificiels n'en contiennent donc pas. Parce que ça a été vu comme quelque chose d'incompréhensible. Mais s'il y en a, et vu ce qu'il coûte à fabriquer, c'est qu'il doit avoir un rôle. Hein. Dans l'évolution, c'est pas stable de fabriquer un truc qui sert à rien. Et on sait aujourd'hui que ces oligosaccharides du lait maternel sont en fait une nourriture qui favorise les bifidobactéries, et d'une moindre façon les lactobacilles, qui sont capables de les digérer parce que c'est des molécules complexes. Tout le monde ne les digère pas, bah oui, mais il y a une coévolution qui a fait que, en fait, plus on était capable d'en mettre dans le lait, plus il y avait de ces bactéries, et plus ces bactéries étaient capables de les digérer, plus elles avaient une niche écologique où il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à manger, ou en tout cas elles étaient favorisées. Et donc on a coévolué avec ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui on le sait, la présence de bifidobactéries dans le tube digestif des nouveau-nés, c'est quelque chose qui d'abord baisse le pH du tube digestif, effet protecteur par acidification, deuxièmement émet des molécules comme de l'acide anolactique, qui sont des régulateurs du système immunitaire qui vont, en gros, d'une façon complexe, l'empêcher de s'activer avec n'importe quel signal, mais lui permettre de s'activer plus efficacement face à des signaux qui sont des vrais signaux pathogènes. Donc on sent bien réduction des allergies, réduction de l'asthme et augmentation d'efficacité face aux maladies. Donc on sait aujourd'hui que cette colonisation, elle est positive, et en creux, elle explique que les enfants qui n'ont pas reçu le lait maternel soient plus sensibles. Alors on retombe là-dessus, ça dépend de comment ils vivent, ça dépend de leur génome, hein. Ils sont pas égaux génétiquement, et ils sont plus sensibles à de la dermatite atopique, à des choses comme ça. Et d'ailleurs, on retrouve aussi l'effet parabiotique chez la maman et chez l'enfant. Mais avant, hein, juste pour finir là-dessus, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Nos compagnes sont libres d'allaiter ou pas, et de donner naissance par césarienne ou par voie naturelle. Je suis pas en train de dire qu'il faut que toutes les femmes donnent naissance par voie naturelle, mais alors que des fois c'est pas possible médicalement. Mais quand même autant que possible, possible. Et je dis pas qu'il faut allaiter, nécessairement, mais autant que possible, c'est bien. Et puis il faut pas se sentir coupable sinon. Parce qu'il y a d'autres gestes à faire pour compenser, et demain il y aura en plus d'autres gestes à faire pour compenser. Alors, venons-en aux gestes à faire pour compenser.
Oui, parce que là vous nous avez parlé de façon de vivre. Donc en fonction de comment on va vivre, on va plus ou moins compenser.
Oui, et alors en particulier, on s'aperçoit aujourd'hui que les produits au lait cru ont un gros effet protecteur. En fait, c'est un effet parabiotique, mais qui se manifeste jusque dans le fœtus.
C'est-à-dire ?
Bah, ce que mange la maman, et notamment les effets du lait cru et des produits au lait cru, même pendant la grossesse, ça a des effets sur la santé de l'enfant.
Ah, donc on est d'accord. Donc même s'il y a la barrière placentaire, il va y avoir un effet sur la santé de l'enfant.
Oui, mais c'est plutôt des effets a priori moléculaires. Je veux dire, c'est plutôt des molécules émises par les bactéries qui prolifèrent dans une certaine alimentation ou par les bactéries qui passent dans le tube digestif sans s'installer, qui vont modifier le fonctionnement du fœtus et lui permettre d'avoir un développement qui se déroule plus normalement.
Mais
donc
comment
c'est des
ça
influences
va passer
à distance.
Comment bah, ça va passer?
Une fois de plus, en elles-mêmes ou par l'effet qu'elles ont sur nous, les microbes, les bactéries et les levures qui habitent nos tubes digestifs modifient les molécules qui sont présentes et modifient donc l'ensemble des régulations par des molécules qui s'opèrent dans tout l'organisme. C'est à distance. Donc vous ne pouvez pas imaginer que si vous êtes enceinte et que vous mangez des produits au lait cru, les bactéries du lait cru vont arriver dans l'enfant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, souvent, les bactéries de l'alimentation ne s'installent même pas dans notre tube digestif. Non, mais par contre, ça a un effet. Et cet effet, il est bien connu par les travaux de la cohorte Pasteur. Alors cette cohorte, c'est 2000 petits Européens, 200 dans 5 pays, qu'on a suivis et dont on regarde comment ils vivent très finement et comment ils sont exposés à des maladies. Et on s'aperçoit que si la maman ou l'enfant ont consommé des produits au lait cru ou fromage au lait cru, eh bien on a des effets protecteurs de 60 à 70% de rhinite et d'otite chronique en moins, de 20% de dermatite atopique en moins, de 20% d'asthme en moins. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a été construit pour avoir une alimentation riche en microbes variés, et que dans le lait cru et les produits au lait cru, il y a une présence microbienne variée, beaucoup plus variée que dans les produits au lait pasteurisé, où on a tué tous les microbes hérités de lavage, de la ferme, de la cave, et on a remplacé ça par des microbes choisis, qui font un fromage techniquement, de façon organoleptique, mais qui n'ont pas toutes les autres fonctions. En fait, ils ont deux fonctions en moins. Souvent, ces fromages sont plus faciles à coloniser par des pathogènes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez souvent des alertes à la contamination par des listeria ou des salmonènes de produits qui sont produits dans des unités stériles, et quand c'est des produits laitiers avec du lait stérilisé, mais qui sont colonisables. Donc on n'a plus l'effet écran parce que ça fait pas partie de ce qu'on sait manipuler, de ce qu'on a voulu retrouver avec les microbes inoculés pour ces aliments. Et puis la deuxième chose, et sans doute la plus importante, c'est qu'on n'a pas l'effet sur la santé qu'avaient la panoplie diversifiée, sans doute pas tous, hein, mais une grande partie des microbes présents dans la panoplie diversifiée d'aliments, comme des aliments au lait cru. Alors entendons-nous, même si les aliments au lait stérilisé sont des aliments qui ont bon goût et qui font la santé, même si ils sont plus contrôlés, ce contrôle dérape parce qu'ils peuvent être inoculés, et donc ils ne sont pas nécessairement moins sujets à des contaminations par des bactéries qui provoquent des intoxications alimentaires. Une célèbre compagnie qui produit du lait en poudre pour enfants a eu des grosses contaminations à la salmonelle en 2017. Et cette contamination, en fait, était présente dans l'usine bien avant qu'elle soit rachetée par cette boîte, dès 2005. Et en fait, entre 2005 et 2017, en 12 ans, on n'était pas arrivé à éliminer cette souche de salmonelle qui a refleuri dans des laits en poudre pour enfants, mais issus de lait stérilisé. Donc, ce que je veux dire, c'est que même les produits issus du lait stérilisé ne sont pas dédouanés du risque de contamination. Et aujourd'hui, ce qu'il faut reprendre en main, sachant qu'en plus, les problèmes de toxi-infection alimentaire collective sont à 3% seulement dus au lait, aux produits laitiers. 97%, c'est la viande. Et c'est là qu'il y a vraiment des morts. Les 3% en question, c'est des maladies, c'est des gros problèmes de santé, mais il n'y a pas de mort à ma connaissance. Donc, il faut reprendre pied là-dedans. Il faut surveiller tous les aliments à base de lait, tous, suivre les lots, détecter régulièrement, et il ne faut pas se priver des bienfaits du lait cru. En tout cas, il ne faut pas obliger les gens à faire un choix dont ils ne sont pas conscients. Et là, j'en viens à un point de réglementation. L'ANSES déconseille de donner des produits au lait cru aux enfants de moins de 5 ans.
Et aux femmes pendant la grossesse.
Ah bah aux femmes pendant la grossesse, d'abord. Deuxièmement, ensuite, aux jeunes enfants avant l'âge de 5 ans. C'est déjà appliqué dans les cantines, et maintenant, elle voudrait l'étendre jusqu'à 10 ans. Et là, c'est là qu'on voit que l'incompétence, alors je suis désolé pour les collègues de l'ANSES, hein, mais c'est de l'incompétence, quoi. Il faut lire la biblio maintenant, hein. il faut changer. On n'est plus dans les années 70. Il y a des choses qui ont changé. On voit très bien que c'est pas la solution du tout, du tout, du tout, du tout. On est en train d'imposer aux gens, au nom de la gestion du risque de crise aiguë et rare, qu'on résout même pas totalement en stérilisant le lait, je l'ai dit, on est en train de leur imposer ces épidémies de maladies du métabolisme et du développement qui courent autour de nous et qui demain, ces maladies dont je parlais, du métabolisme, du système immunitaire et du système nerveux, demain, c'est un Européen sur 4 en 2025 qui en sera atteint. Donc c'est de façon diffuse un truc qui pourrit la vie d'un grand nombre de gens. Il y a là une réglementation qui est non seulement pas à la hauteur des données disponibles actuellement, mais en plus, toxique. Ça, il faut le dire.
C'est incroyable quand même ce que vous nous dites, parce que, alors, moi, il se trouve en effet que je suis enceinte et qu'on n'arrête pas de me répéter qu'il ne faut pas manger de lait cru, parce qu'il y aurait quand même plus de risques, donc le rapport bénéfice-risque serait en défaveur du lait cru. Et en effet, pour les enfants, alors, il se trouve que j'ai un premier enfant et je me suis toujours dit que le lait cru était toujours mieux pour elle, donc j'ai toujours donné du lait cru, mais pareil, on ne fait que répéter le fait qu'il ne faut pas donner du lait cru.
Alors, il est clair que pendant la grossesse, il va falloir faire très attention à la source de lait cru qu'on a et à la vitesse à laquelle on va la consommer. D'accord ? Et c'est sûr qu'on prend un risque. Mais en fait, il y a un risque derrière tout aliment.
Oui, mais attendez, le risque, il est peut-être plus fort en produits industriels à partir du moment où les derniers scandales sur la listeria, qui est la question pendant la grossesse, ils viennent de ces produits industriels.
Pas que, hein, cela dit. Mais oui, enfin, on n'est pas totalement protégé en prenant des produits, effectivement, issus de lait stérilisé. Et par contre, on perd le bénéfice. Alors, qui a un risque légèrement augmenté ? Bon, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques fiables et valables pour dire qu'est-ce qui est le plus risqué, en fait. Mais moi, je peux admettre, je vais vous le dire, hein, je peux admettre que dans les productions lait cru, il y a peut-être un risque légèrement accru. Mais il y a un bénéfice à côté. La question, c'est le calcul risque-bénéfice. C'est exactement comme dans la vaccination, d'ailleurs. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, c'est vrai que quand on dit aux gens, même si une fois de plus, les statistiques sont pas là, hein, on leur dit aux gens, examiné du point de vue du risque d'intoxication aiguë, il vaut mieux prendre du lait stérile, stérilisé. Admettons, même si une fois de plus les statistiques ne sont pas claires, mais maintenant si vous rajoutez l'aspect santé des enfants, et quand vous voyez qu'aujourd'hui la dermatite atopique, je l'ai dit, qui n'existait pas dans les cours de récréation quand j'étais petite, c'est le nom est même inconnu de toute une génération. Aujourd'hui, moi j'ai un petit à la maison, il a le tour de la bouche toute rouge, il a les aisselles qui rougissent très vite, on est obligé de prendre des crèmes stéroïdes. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence à envisager expérimentalement des crèmes rajoutant des microbes sur la peau, des staphylococcus et pyenermilis, pour prévenir les proliférations de bactéries indésirables comme les staphylocoques dorés, qui sont responsables de la dermatite atopique. Vous voyez, on en est là, inoculer des microbes aux enfants. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on reprenne une compagnie microbienne et on ne peut pas laisser se développer ces maladies parce que c'est un vrai mal-être. Et puis ce mal-être, il dérive petit à petit dans des états inflammatoires et vers des cancers. Donc c'est quelque chose de dangereux. Maintenant, je ne dis pas que le chemin est simple. Alors, revenons à la maman enceinte. Je ne dis pas qu'il faut bouffer n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je défends, moi, c'est la saleté propre. C'est ce niveau de saleté, entre guillemets. Ça, c'est le côté culturel, sale propre. Hein. Des trucs qui nous paraissent un petit peu crades. Comme un produit au lait cru, comme un peu moins de douche, ou juste des douches frottées, pas des douches savonnées, une fois sur deux par exemple. Cette saleté propre, c'est ce niveau de saleté qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé. Et il faut qu'on retrouve ça. Je dis pas qu'il faut puer, je dis pas qu'il faut vivre avec une diarrhée tous les trois jours, c'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, en rejetant les mauvais microbes, on rejette les bons. Et petite parenthèse sur le lait cru, ben vous avez vu que avec le lait stérilisé, on rejette pas forcément très utilement les mauvais.
C'est-à-dire juste on rejette pas les mauvais avec le lait stérilisé.
On rejette pas les mauvais parce que vous avez vu qu'il y a quand même des produits issus de lait stérilisé qui se retrouvent contaminés.
Ah oui, contaminés, d'accord.
Alors, il y a aussi une dimension culturelle à ça. La France est très fière de ses fromages, hein, mais petit à petit, on est en train de remplacer les fromages au lait cru par des fromages au lait pasteurisé en inoculant des microbes choisis. On perd de la diversité, qui est une diversité culturelle, on perd une diversité qui est celle que nous vendons, et aujourd'hui, c'est la grosse honte, mais la grosse misère. On est sur 10% de fromage au lait cru en France, alors qu'on est encore à 70% en Suisse. C'est la débâcle.
10%.
Une débâcle en partie sanitaire, je le suggérais, mais aussi une débâcle culturelle, que diantre, notre fierté, c'est notre gastronomie. Et il faut se reprendre là. Il faut regarder les choses en face. Nous sommes en train de perdre un patrimoine culturel aussi. C'est un des endroits où la biodiversité biologique nous rappelle la biodiversité culturelle. Vous savez ce qu'on appelle le patrimoine, qui n'est que la biodiversité résultante de l'évolution culturelle. Ben là, c'est le débat. Et pour revenir au moment enceinte, c'est vrai que les fromages au lait cru façon suisse, ils ont cet avantage, c'est qu'ils sont moins facilement contaminables parce que c'est des fromages à pâte cuite, donc où il y a peu d'eau. Et quand on dit pâte cuite, bon, elle est surtout chauffée pour aider à la coagulation, mais elle est pas du tout stérilisé pour autant. Donc, c'est vrai que le lait cru ou les fromages ou les fromages blancs ou lait cru sont peut-être un peu plus facilement contaminables que des pâtes cuites. Un peu plus. Et donc, peut-être pendant la grossesse, vous savez quoi? Moi, je suis microbiologiste, je suis pas diététicien. Trouvez-vous un diététicien qui a compris tout ça et qui sait donner des recommandations aux mamans enceintes. Moi, je veux pas donner des recommandations.
Bien sûr, bien
je
sûr.
Montre juste des directions qui sont des cul-de-sac. Et j'ai bien peur que beaucoup de réglementations frise le cul-de-sac, et aussi le cul-de-sac culturel, dans ce sens que notre pays est riche de ces façons de fermenter des charcuteries, de fermenter des laitages. Et ça, il faut pas le perdre.
Je voudrais revenir sur l'alimentation de nos enfants, et notamment sur les fibres. Parce qu'aujourd'hui, les enfants mangent très peu de fibres. Naturellement, on a l'impression d'ailleurs qu'ils sont pas forcément attirés par les fibres, ou alors c'est les habitudes alimentaires qu'on leur a données. Mais en tout cas, de fait, quand on regarde un menu enfant typique d'un restaurant, bah il y a jamais une fibre, quoi.
Oui, et il y en a pas tout à fait assez. J'ai l'impression, mon impression de papa, là pour le coup, dans les crèches et dans les écoles, ça pourrait être un petit peu plus développé. Encore qu'il y ait des efforts de diététique dans les menus, mais je vois aussi beaucoup d'aliments transformés. Et donc, de toute façon, le goût, ça se forme. En tant que jeune père, alors je suis pas jeune, mais je suis jeune, très récemment papa, je vais peut-être me prendre les pieds dans le tapis de ce que je dis, mais je pense que ça se forme, le goût d'un enfant. Donc il faut éviter de donner du goût, des appétences pour le sucré, pour le gras, ou en tout cas le conditionner à une alimentation diversifiée par ailleurs. Bon, c'est parfois difficile, hein, mais c'est vrai que il faut au maximum former le goût. Je suis pas sûr que ce soit un travail qui est vraiment entrepris pédagogiquement dans nos écoles. D'ailleurs, ce dont je suis sûr, c'est que dans nos écoles, on ne forme pas au fait d'être vivant. Écoutez les informations, vous allez entendre hein, des tas de trucs comme quoi les fondamentaux, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter. Bah, que nenni. Le fondamental, même les jours où je compte pas, même les jours où j'écris pas, même les jours où je lis pas, c'est que je vis. Le fondamental, c'est de savoir vivre. Ah ben non, ben dans les écoles primaires, non seulement il n'y a pas trop de programmes à ce propos-là, mais en plus les enseignants étant souvent littéraires de formation, malgré qu'ils en aient, hein, malgré qu'ils souhaiteraient sans doute le faire, eh bien, ils savent pas trop comment le faire, l'éducation à la santé, et d'ailleurs aussi l'éducation à l'environnement, notamment à comprendre ce que c'est que les sols et à choisir ses produits agricoles, comme on en parlait dans le précédent podcast, en fonction de ce qu'ils font au sol. Bon, on ne vend pas du tout à ça, on voit pas ça comme un essentiel. Bah, c'est simple, hein, la génération qui voyait pas le savoir-vivre, c'est-à-dire le savoir entretien sa santé, le vivant autour de soi, la génération qui a été formée comme ça, on a fait une expérience, hein, cette expérience, ça s'appelle les générations des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. C'est ceux qui nous ont foutu dans la merde environnementale et sanitaire où on est. On a fait l'expérience. Alors maintenant, bah, si on était justement un peu plus formé à la biologie, on verrait ça comme une expérience et on tirerait des conclusions. Aujourd'hui, on se contente de sauter comme un cabri sur sa chaise en disant la biodiversité, le climat. Puis demain, on dira les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Aujourd'hui, on commence à sauter dans les fluoroalkylés. Ouais, tout ça, c'est le même problème. C'est qu'il y a des choses qui sont jouables écologiquement, d'autres pas. Il y a des choses qui sont jouables sanitairement, d'autres pas. Point. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, ça doit s'apprendre dès le début. Et ça passe notamment par apprendre à manger. Et c'est pas les parents qui peuvent apprendre à manger, vu qu'ils mangent comme des pourceaux, c'est-à-dire au détriment de leur propre santé la plupart du temps. Pas assez de fibres, notamment. Quand voulez-vous que des parents qui mangent pas assez de fibres fassent manger assez de fibres à leurs enfants? Hein, fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Ça marche pas. On a un vrai besoin de formation, qui est le nerf de la guerre pour plein de problèmes. Il va falloir qu'on se sorte les doigts du cul et qu'on commence à enseigner de la biologie, du vivant, dès le plus en âge, à haute dose et en interdisciplinarité. Parce que, vous savez, les objets biologiques ne touchent pas qu'à la biologie. La sexualité, c'est pas qu'une histoire de tuyaux. Le climat, c'est pas qu'une histoire de vivant, c'est aussi une histoire de physique et de chimie. Donc il est temps qu'on aborde aussi ces objets en interdisciplinarité. C'est ce que je dis, c'est à la fois une défense d'une discipline qui est sous-enseignée, mais aussi l'idée que certains objets gagneraient à être enfin le début d'une interdisciplinarité. Parce qu'on fait une seule cervelle et aujourd'hui on la remplit avec des rubriques différentes, alors que toutes ces rubriques sont encore interconnectées dans la nature et qu'elles devraient l'être dans les cervelles.
En dehors de l'alimentation, vous nous avez dit la façon de vivre va jouer. Vous avez donné l'exemple de la personne qui vit avec un chien. Je me demande la différence entre quelqu'un qui vit à la campagne et quelqu'un qui vit en ville.
Bah justement, c'est ce que la cohorte pasture montre, c'est que le fait d'avoir un animal domestique, ça a des effets protecteurs, que le fait de vivre à la campagne, ça a des effets protecteurs, mais si vous vivez à la campagne,
entouré de
la citadine, ça joue pas, et si citadin, vous mangez du lait cru, vous avez un chien et que vous sortez souvent, vous pouvez compenser. Donc il n'y a pas de fatalité, on peut pas, il ne faut pas dire qu'on ne peut être en bonne santé qu'à la campagne. À la campagne, on est souvent obligé d'être en bonne santé parce que l'environnement contraint à certains niveaux de contamination et permet une diversité d'alimentation peut-être qu'on n'a pas en ville. Mais on peut se comporter très mal à la campagne et très bien en ville aussi. C'est là que le libre arbitre doit s'exercer et qu'il n'y a pas de fatalité. La seule fatalité, c'est d'ignorer la biologie, c'est d'ignorer ce dont nous sommes faits, ce dont notre environnement est fait, et notre environnement il est aussi dedans. C'est notre microbiote. Et si je peux glisser une page publicitaire, moi je préside la fédération BioG qui regroupe des académies comme celle d'agriculture ou de médecine, le muséum, des soixantaines de sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des regroupements d'entreprises qui essaient de se battre pour promouvoir l'enseignement des sciences du vivant et de la terre à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois aux élus comme outils d'aménagement, aux médecins comme nouveaux outils pour la santé, bah dans le primaire aussi et dans le secondaire, là où c'est vraiment pas représenté. Et la Fondation BioG, B-I-O-G-E-E, qui organise un grand événement annuel à Rouen, ben l'an prochain, comme tous les ans, les journées naturellement auront lieu à Rouen, du 13 au 15 octobre, sur microbiote, deux points, santé et environnement, pour montrer comment nos disciplines sécrètent des outils. Parce que là, on raconte ce qui marche pas, mais vous voyez qu'en creux, il y a des gestes qui sont des outils pour que ça marche mieux. Et c'est ça que les gens ne savent pas, c'est là-dessus que BioG, B-I-O-G-E-E, allez sur le site web, c'est là-dessus que BioG essaie de travailler, et c'est là-dessus qu'on doit travailler collectivement pour la génération suivante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mal faire, en toute sincérité. Ce qui fait que c'est nocif et con.
Une question supplémentaire est sur les antibiotiques. L'usage que l'on a sur les antibiotiques, évidemment, ça va influer énormément sur notre microbiote.
Oui, alors, sur les antibiotiques, on s'aperçoit de deux choses. Hein. La plupart du temps, il y a une résilience, et le microbiote, après le traitement... Oui, les antibiotiques, ils tapent tous azimuts, donc ils tapent aussi sur le microbiote. Le microbiote change pendant l'antibiothérapie, et pendant ce temps-là, effectivement, on se retrouve transitoirement à ne plus avoir les microbes protecteurs. En tout cas, on n'a plus la même protection, et on peut enchaîner les maladies. Bien. Donc, effectivement, faut réserver les antibiothérapies au cas où c'est nécessaire. Mais après, on peut pas s'en passer, dans certains cas. Dans ces cas-là, le microbiote normalement revient petit à petit à l'équilibre. Chez certains patients, il reste pendant plusieurs mois, jusqu'à 6-7 mois. Chez quelques patients, il reste avec une autre composition, dont on ne sait pas très bien si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin, c'est pas toujours une bonne nouvelle, quoi, le fait que ça marche plus comme d'habitude. Donc on peut aider au retour à l'équilibre en prenant des probiotiques. Encore faut-il bien les choisir, parce que certains cocktails de probiotiques vont occuper le terrain en empêchant eux-mêmes les microbes ordinaires de revenir. Donc, limiter les prises d'antibiotiques. Prendre des probiotiques recommandés par les médecins. C'est-à-dire efficaces et pas simplement occupant le terrain en empêchant la résilience. Ensuite, il faut limiter aussi leur utilisation dans l'environnement, et notamment pour les animaux, parce que il y a un autre problème, c'est que ça sélectionne plus exactement des résistances aux antibiotiques qui font que les antibiotiques d'aujourd'hui risquent de ne plus fonctionner demain. Les bactéries MDR, multidrogues résistantes à plusieurs antibiotiques, commencent pour certaines à être résistantes à tous les antibiotiques connus. Elles traînent souvent celles-là dans les milieux hospitaliers où leurs ancêtres ont eu l'occasion de rencontrer toutes sortes d'antibiotiques et d'empiler les résistances. Ça, c'est un vrai fléau. Et ça veut dire qu'il faut relâcher la sélection de la résistance, il faut limiter au maximum l'usage des antibiotiques. Après, on n'y coupera pas dans certains cas.
Mais l'usage des antibiotiques pour les enfants est un vrai aussi fléau, puisque j'imagine que, en tout cas, avant 3 ans, il n'y a pas de flore, quoi.
Et effectivement, les états allergiques, asthmatiques et autres, il y a une corrélation, alors la causalité n'a pas été démontrée, mais il y a une corrélation avec le fait d'avoir eu des antibiothérapies dans l'enfance. Et on sait que le fait d'avoir eu des grosses antibiothérapies affecte la composition du microbiote de l'enfant. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut l'éviter au maximum, sachant que si vous avez un enfant qui a des otites hyper douloureuses avec des risques de complications et d'ulcérations, là, on y va. Je veux dire, à un moment, il faut choisir de deux mots le moindre. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas toujours faire, choisir de deux mots le moindre, quand on ne sait pas l'envergure des mots ou l'envergure des vertus du microbiote.
Vous nous avez parlé de toutes les maladies que entraîne une baisse du microbiote, obésité, diabète, cancer et autres maladies auto-immunes. Est-ce que aussi on va avoir des effets par rapport aux personnes qui se disent intolérantes au lactose, intolérantes au gluten ?
C'est compliqué à dire. La tolérance ou l'intolérance au lactose, c'est génétique.
Ok.
Ça, c'est génétique et d'ailleurs, la tolérance au lactose, c'est pas un état normal pour une espèce de mammifère. C'est quelque chose qui a été sélectionné dans les populations qui consomment du lait. Nos ancêtres, qui ont commencé à faire du lait, ils ne le digéraient pas à l'âge adulte. Et ils ont fait du fromage. Et d'ailleurs, là, vous voyez une dimension. C'est que le lactose, il est toxique, il donne des diarrhées quand on ne le digère pas. Nos ancêtres ont fait du fromage. Et ça, c'est une dimension de détoxification du microbiote. Les microbes du yaourt ou du fromage vont consommer le lactose. Et après, même si vous êtes intolérant au lactose à l'âge adulte, vous pouvez manger du fromage. Cette dimension de détoxification, on la retrouve. La choucroute, historiquement, c'était une façon de détoxifier le chou qui contenait des toxines qui, à la fois, étaient immangeables. Il en reste quelques-unes, mais qui sont moins toxiques. C'est celles qui donnent le goût du chou. Mais ces composés soufrés-là, historiquement, faisaient que le chou était non mangeable, sauf à l'avoir fermenté. D'ailleurs, aujourd'hui, la choucroute n'a pas le goût de chou. On voit bien que disparaissent ces composés soufrés qui font le goût du chou. Même si aujourd'hui, on l'a oublié, tout ça, parce que, un, la plupart d'entre nous sont devenus tolérants au lactose. Deux, la plupart des choux maintenant sont sélectionnés pour être comestibles, même crus. Mais on pourrait multiplier les exemples. Le manioc, c'est bourré de composés qui produisent du cyanure. Et qu'est-ce qu'on fait du manioc, qui est donc une source d'amidon utilisée dans les régions amazoniennes et américaines, et puis maintenant un peu à travers toutes les régions tropicales du globe? On le fait fermenter. C'est ce qu'on appelle le rouissage du manioc. Et dans le rouissage du manioc, les bactéries décomposent ces composés parce qu'ils sont dangereux pour elles. Donc au total, on se retrouve souvent avec des détoxifications. Et on sait très bien d'ailleurs que même dans notre tube digestif, notre microbiote interne détoxifie des aliments. Par exemple, il détoxifie la dattéine du soja, qui est une toxine qui est un perturbateur endocrinien si on ne le modifie pas. Donc au total, on a ces rôles de protection là dans les aliments fermentés. Et j'ai totalement perdu le point dont on était parti.
Et le gluten aussi. On parlait de l'intoxication.
Oui. Alors le gluten, c'est pareil. L'intolérance au gluten, c'est une galaxie de problèmes qui vont de problèmes allergiques à des problèmes moins bien caractérisés. Donc on ne peut pas en parler de façon homogène de ça. Mais il n'est pas impossible que le microbiote ait un rôle. J'avoue que là, je dois dire que je ne sais pas. Je n'ai pas lu de travaux récents là-dessus. Et tout ce que je sais, c'est que l'intolérance au gluten, ça recouvre plein de choses différentes et qu'il faudrait vraiment arriver à les segmenter en pathologies distinctes.
Comme on a compris l'importance notamment des produits fermentés et aussi des produits au lait cru, est-ce que ça veut dire que les Américains qui ne mangent pas de produits au lait cru ont aujourd'hui plus de maladies que des Français ?
On voit très bien que l'incidence des maladies que j'ai décrites, qui sont liées à des dysfonctions de microbiote, est plus fréquente là-bas. Je disais qu'un petit Européen sur 150 n'est autiste à des degrés variés. Hein. En Europe, c'est 1 sur 80 en Amérique, donc ils sont un petit peu en avance de nous. Mais nous, quand on regarde un petit peu, il y a certains pays d'Europe et certaines catégories socio-professionnelles qui n'ont rien à envier à la moyenne américaine. Hein, on avance en ordre dispersé vers des pathologies très handicapantes, généralisées. C'est vrai que l'hygiénisme, dans son excès, hein, quand je dis hygiénisme, je ne renvoie plus à l'hygiène qui est l'espèce de mode de fonctionnement idéal de notre organisme, je renvoie à l'excès d'hygiène. L'excès d'hygiène, l'hygiénisme abusif a beaucoup plus frappé, oui. Mais vous savez, aujourd'hui, l'hygiénisme, il commence quand on se frotte les mains frénétiquement avec des gels hydroalcooliques.
Oui. Vous Puis avez dans les gens... écoles.
Il y en a sur la table, là. C'est n'importe quoi. On est sans masque. C'est comme ça qu'on attrape la Covid. L'idée que la Covid soit manuportée, donc qu'on puisse l'attraper par les mains, elle a pas reçu de confirmation expérimentale.
Ah oui.
Ben non. Alors moi, je vois des gens qui n'ont pas de masque, qui s'entassent tous ensemble et qui se frottent frénétiquement les mains avec du gel hydroalcoolique. Ils bousillent leur microbiote et c'est à peu près tout ce qu'ils font. Il faut arrêter ces conneries-là. Que on utilise du gel hydroalcoolique en période de propagation, de gastro ou de grippe. Alors là, on sait qu'il y a un rôle. Et là, on y va. Coût-bénéfice. On abîme le microbiote parce que ça évite de propager la grippe et les gastro. Mais le reste du temps, on n'utilise pas du gel hydroalcoolique, c'est n'importe quoi. En plus, en se lavant les mains, hein, au savon... On peut aussi être propre et ça enlève les molécules chimiques en même temps. Parce que c'est une autre source de contamination des mains, les molécules chimiques qu'on prélève dans l'environnement. Enfin bref, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de gestes qui nous paraissent élémentaires et des tas de valeurs qui nous paraissent élémentaires qu'il faut absolument proscrire. Quand on vous dit qu'un produit ménager tue 99,9% des bactéries, quand on vous dit qu'un produit de rinçage bucco-dentaire tue 99,9% des bactéries, quand on vous dit qu'un savon tue 99,9% des bactéries, ça veut dire 1. Qu'il est plus cher, 2. Qu'il est à proscrire. À proscrire parce qu'il va tuer la diversité qui est autour de vous. Allez, au vinaigre, au carbonate de soude, hein, les bons vieux produits de mamie, on ne prend plus de produits liquides, parce que les produits liquides dedans, il y a des conservateurs, il y a des antibiotiques pour les conserver, puisqu'il y a de l'eau, les contaminants peuvent s'y développer. Eh ben oui. Donc, on ne prend pas de produits liquides, on prend des produits secs, solides, savon de Marseille ou savon d'Alep, c'est parti. Ça sera moins cher, ce sera moins dangereux pour l'environnement et notre santé.
Sauf pour le vinaigre qui est liquide, le vinaigre blanc.
Bah oui, mais vous avez vu quelque chose se développer dans du vinaigre ? Justement, le truc, c'est que ça, c'est une bonne solution parmi celles qu'on hérite de nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient pas que des bonnes idées. Hein. Je dis pas qu'il y avait un paradis perdu où on faisait tout bien. Hein. J'ai pas envie de retourner au Moyen-Âge où effectivement les médecins se tartinaient de vinaigre pendant les périodes d'épidémie pour pas attraper la maladie. Mais enfin, les médecins qui faisaient ça, j'aimerais pas être soigné par eux. Donc, si vous voulez, je suis pas en train de dire que le passé était parfait, mais du passé, nous héritons de choses dont on a pu vérifier l'innocuité. Le vinaigre, le carbonate de soude, le savon de Marseille.
Nous, on le répète en permanence à nos restaurateurs, hein, parce que c'est vrai que... Mais là, il y a de la formation à faire dans les services de l'hygiène. Hein, c'est que
mais il y a de la formation à faire à la petite école. Ça concerne tout le monde et tout le monde passe à la petite école. Alors moi, je veux bien qu'on mette des patchs. Je suis tout à fait d'accord qu'on ait de la formation continue et qu'on s'adresse à des professionnels ou à des adultes. Enfin, quand je vois ce que me coûte l'école, j'aimerais qu'elle assure ce minimum-là, le savoir-vivre, comme j'ai dit, qui fait partie des fondamentaux. Et tant que ça ne fera pas partie des fondamentaux, tant qu'on n'aura pas réalisé ça... Ça veut dire que les pédagogues qui ont nos enfants entre les mains ne font pas leur boulot, ne sont pas à la hauteur du défi. Un défi qui, on le sent bien, est à la fois environnemental et sanitaire aujourd'hui. Et ça passe par le microbiote.
Pour conclure ce podcast qui était vraiment passionnant, un peu plus long que d'habitude, mais passionnant, si vous aviez un conseil à donner, deux ou plusieurs, hein, à nos auditeurs et auditrices pour aller dans ce sens-là, ce serait quoi ?
Retrouver la joie de manger qui est basée sur la diversité. Derrière ce que je viens de dire, il y a une diversité de goûts, une diversité d'arômes, une diversité de façons d'apprêter. Alors, je sais que tout le monde n'a pas le temps de faire la cuisine. Ça, c'est problématique. Hein. Mais on peut même apprendre à manger des trucs crus ou semi-crus. Enfin, vous voyez, quand on rentre le soir, éplucher un gros radis, par exemple, ou un chou raf qu'on va croquer cru avec une viande froide ou un truc comme ça. Enfin, bon, retrouver le plaisir gastronomique, le plaisir alimentaire, mais même simple, en diversifiant, en prenant des aliments fermentés, en prenant des ressources végétales, les fameux 3V, vrai, varié, végétal, retrouver le sens, une forme d'hédonisme qui est plus propre à vous maintenir en bonne santé et à maintenir votre microbiote en bonne santé. Quelque part, tout ce qu'on a évoqué est anxiogène, surtout quand on voit que nos enfants ne sont pas formés à gérer plus que nous ne l'étions ces défis-là. Mais derrière, il y a aussi du bonheur, celui d'être en bonne santé en partie, d'abord, et c'est pas neutre. Mais il y a aussi le bonheur de retrouver l'alimentation comme une source de plaisir. Et il faut aussi apprendre à le faire pour pas cher. Une alimentation qui fait plaisir, c'est pas un vin coûteux, c'est pas acheter des truffes.
La mesure politique a soufflé au gouvernement sur le sujet.
Eh bien, de recevoir la Fédération Biogé, pour l'instant, on n'a toujours pas vu le ministère de l'Éducation, on n'a pas vu le nouveau ministre de l'Éducation, de recevoir Biogé très très vite, et d'engager une concertation très large, très grande, pour que l'enseignement et la structure de l'éducation ne soient pas le produit de foucade de ministres qui essaient de chier une réforme avant la fin de leur mandat, et tout ça, ça fait que des chiures en vrac, mais bel et bien d'avoir une vision collective et un temps de réflexion sur comment et quoi enseigner, calmement, au-delà des échéances, et d'avoir une vision de l'éducation des générations futures qui soit du même type que notre vision de la stratégie de défense nationale. Pas le produit de foucade, mais penser sur le long terme.
Une lecture ou un film à conseiller? Alors, il y a évidemment votre livre sur les microbes.
Oui, jamais seul. Bon, il y a aussi le livre de Julia Anders sur le microbiote intestinal. Et puis, il y a tout un tas de bons livres qui ont été produits. Il y a le fameux Ni cru, ni cuit. Le nom de son auteur m'échappe, mais elle a fait un travail remarquable sur les aliments fermentés. Mais il y a une kyrielle de livres sur les aliments fermentés.
On mettra de toute façon les références de ces deux livres.
Et puis, sur les films, il y a beaucoup de documentaires sur le microbiote. J'ai participé à quelques-uns d'entre eux, mais il y a énormément de très bons documentaires qui ont été faits. Il y en a un qui vient de sortir pour TV5, hein, sur les microbiotes, mais ça manque pas. Vous savez, les documentaires scientifiques, ils sont très peu diffusés, mais il y en a beaucoup qui sont excellents et attrayants. Et il n'y a pas que sur le microbiote qu'il y a des merveilles à trouver.
Merci beaucoup Marc-André.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable.